Une petite question que je réponds tout de suite par rapport à ce que j'ai pu dire la dernière fois. Vous dites le concept d'être se fonde sur la ratio entis. Alors certains traduisent ratio entis concept, ce qui est faux, je crois. C'est vraiment le concept d'être se fonde sur la ratio entis. Peut-on vraiment parler d'un concept d'être? Pouvez-vous expliciter? C'est toute la grande question des transcendantaux. La ratio entis existe. Saint Thomas ne cesse d'en parler. Si on parle d'une ratio entis, il y a donc un concept d'être. Sans le concept d'être, je ne pourrais pas parler de la ratio entis. Réfléchissez là-dessus. S'il n'y a pas de concept d'être, tous nos mots impliquent un concept. C'est-à-dire, ah, mais Dieu, oui, mais Dieu, faisons attention. Dieu est un sujet, c'est une réalité, c'est une res. Et j'ai un jugement qui porte sur Dieu. Le sujet Dieu a une signification selon les traditions religieuses. Et pour le philosophe, on a toujours dit que le mot Dieu n'est pas un mot philosophique. C'est un mot qui relève des traditions religieuses. Tandis que la ratio entis ne relève pas des traditions religieuses. La ratio entis, c'est vraiment un mot philosophique que les philosophes ont inventé. Voilà, ont précisé. Et ça correspond à ce concept que j'ai d'être. Alors, il faudrait regarder la genèse du concept d'être. Et c'est très intéressant dans chaque langue. De vue philologique, de voir comment le concept d'être est très différent selon les différentes langues. Regardez en arabe. Parce que j'ai assisté une fois à un séminaire comme ça où on prétendait qu'il n'y avait pas de concept d'être en arabe. Le concept d'être est toujours impliqué dans un jugement. Vous voyez, il y a un jugement d'existence, ceci est, et pour que y a un jugement, je peux réfléchir sur ce jugement, et je vois que dans ce jugement, c'est le verbe être, vous voyez, que je peux saisir quand même, quand il est un infinitif. Il est par mode de substance, par mode de quidité. Donc j'ai un concept par mode de quidité. Ce concept n'est pas univoque, il est analogique. C'est-à-dire que c'est un concept qui tout de suite fait craquer toutes les déterminations et toutes les formes. Mais il y a quand même un concept d'être. Radical. C'est Heidegger qui dit qu'il n'y a pas de concept d'être. Rosmini dit qu'il est inné. Je ne dis pas qu'il est inné, je dis qu'il est acquis. Et qu'on l'acquiert toujours plus. Et plus nous avançons en philosophie première et en métaphysique, plus notre concept d'être s'enrichit. Et que nous comprenons que ce concept d'être va de fait contenir en acte. Pas explicitement. Le concept du bien, le concept de l'un, le concept. Tous les transcendantaux sont contenus dans le concept d'être. Sauf que il faut maintenir qu'il y a un concept d'être, mais un concept analogique d'être. Que j'ai très vite, du reste. Primo cadit in intellectus ens. Cadit in intellectu. Voilà le concept. Oui. Qu'il n'est donné dans le jugement d'existence en premier lieu. Le jugement d'existence implique une certaine appréhension. Alors continuons. Vous voyez, s'il y a des questions, posez-les tout de suite. S'il y a une difficulté, je comprends qu'il y a une difficulté. Mais le concept n'est pas seulement univoque. C'est là, là ce qu'il faut tout de suite dépasser. Parce que Heidegger a une vision d'un concept univoque. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de concept d'être. Alors je suis d'accord. Si pour nous les concepts, c'est toujours les cinq modes des prédicables, le concept d'être est au-dessus. Il est radical. Les cinq prédicables, les cinq modalités universelles. Autrement dit, c'est un concept très radical, présent à tous les transcendantaux, et celui qui, dans la critique, est le dernier que nous décelons. Et le premier aussi que nous décelons. Premier et dernier. Et il enveloppe toute notre vie intellectuelle. Alors, continuons cette recherche de la vérité avec divers jugements de vérité. Nous avions vu comment comprendre les différents jugements au niveau philosophie spéculative. La dernière fois, nous avons fait un nota bene. Y a-t-il une vérité en mathématiques? Et dans toutes les sciences qui dépendent des mathématiques. Vous pourriez ajouter à ce nota bene le point de vue de la logique. Y a-t-il une vérité en logique? Mathématiques et logique se tiennent toujours, sont distinctes, il ne faut surtout pas identifier les deux. Y a-t-il une vérité en logique? Quand vous dites, par exemple, c'est logiquement vrai, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites c'est logiquement vrai? Vous avez tout à fait le droit de dire que c'est logiquement vrai. Quand vous dites c'est mathématiquement vrai, c'est scientifiquement vrai, et c'est une sorte de formalisation de la vérité à ce moment-là. Et vous montrez que c'est logiquement vrai lorsque, de fait, il y a entre l'attribut et le prédicat, entre l'attribut et le jugement, une connexion. Quand vous dites « Pierre est intelligent », est-ce que cette proposition est logiquement vraie? Je dis oui. Parce que Pierre implique homme. Homme implique l'esprit et l'intelligence. Donc, c'est logiquement vrai. Pierre, on dira en logique, Pierre supponit. Pierre est capable de porter le point de vue intelligent. L'exemple classique que prennent toujours les scolastiques, l'antéchrist est arrivé. Est-ce que c'est logiquement vrai? Non. Parce que si je prends l'antéchrist comme celui qui arrive juste avant la venue du Christ, je ne peux pas le dire. Ou le Christ sera en théologie. Est-ce que logiquement c'est vrai? Non, il a été. Il est venu. Vous voyez? La vérité au niveau, la vérité logique au niveau de l'énonciation. C'est lorsque le sujet est capable de recevoir cette détermination particulière, cet attribut particulier. Et le verbe aussi. C'est ce qu'on appelle la supposition. C'est un terme consacré en logique qu'il faut connaître. Et ça joue pour la vérité logique. Un attribut qui serait complètement à côté de Pierre, je dirais, non supponite, que je dirais Pierre est infini. Est-ce que c'est vrai logiquement? Non. C'est pas vrai logiquement. Parce que Pierre n'est pas capable de porter cet attribut infini. Quand vous dites Pierre est un âne, Pierre est un âne. Est-ce que c'est vrai logiquement? Non. Sauf si vous prenez âne métaphorique. D'une façon métaphorique. Je peux dire Pierre est un âne parce que, ah là 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 là, hein, il faut des coups de bâton pour le faire bouger. Et quand une mère dit à son fils, tu es un petit âne. Très bien ce que ça veut dire. Qui est paresseux comme un âne. Alors que l'âne n'est pas du tout paresseux. C'est un animal qu'il faut savoir prendre. Parce que si vous le prenez mal, ça ne va pas. Ça résistera. Oui, alors ça, c'est pas vrai logiquement. Si je prends âne selon le sens propre, c'est-à-dire un animal, spécifiquement un animal. Donc vous voyez, la vérité logique au niveau de l'annonciation, au niveau de l'attribution, donc de l'énonciation. C'est si il y a une correspondance, une harmonie entre le sujet et le prédicat. Et on dira, est-ce que le sujet supponite le prédicat? Bon, il y a une vérité logique au niveau du raisonnement. Quand vous dites, hein, quand vous dites ceci, tout ce qui est mu, ému par un autre. Tout ce qui est ému par un autre. Or, Pierre est ému. Donc, il est ému par un autre. Vous avez un raisonnement, un syllogisme. Logiquement, c'est vrai. Tout ce qui est mu par un autre. Pierre est un de ceux qui sont mus. Donc, il est normal qu'il soit mu par un autre. Or, Pierre est mu, donc il est mu par un autre. L'inférence est logique. Quand vous dites, au contraire, dans les preuves que saint Thomas donne de Dieu, et qu'il prend une constatation, il existe un ordre. Il existe un ordre dans les causes efficientes. Je constate. Et c'est un ordre dans les causes efficientes. Un ordre, ou bien d'ordre causal, dans les réalités vivantes. C'est mieux. Et c'est un ordre causal dans la réalité vivante. Puis vous prenez un principe négatif. Il est impossible que ceux qui se meurent soit mu par un autre. C'est impossible que ce qui se meut, ou si vous voulez, est impossible que ce qui se fait, pour prendre C'est la vie de saint Thomas qui se fait. Soit fait par lui-même. Soit fait par soi. Ce qui se fait, soit fait par soi. Donc, il existe un être premier. Logiquement, ce n'est pas juste. Puisque il est impossible, c'est négatif. Ici, c'est positif. Du positif, alors du négatif. Je ne peux pas conclure quelque chose de positif. Donc c'est logiquement faux. Donc voyez, la vérité logique n'est pas une vérité philosophique. La vérité logique est simplement une vérité à l'intérieur même des êtres de raison de l'universel. Ce sont des connexions nécessaires à l'intérieur de l'universel. Je n'insiste pas plus. Je regarde maintenant tout de suite ce qui nous intéresse plus, la philosophie pratique. Dans la philosophie pratique, vous avez un jugement artistique. Cette statue est belle. Je vous dis, il est vrai que cette statue est belle. Est-ce que ce jugement est vrai? C'est un jugement artistique. Est-ce que je peux dire que cette proposition, cette énonciation est vraie? Qu'est-ce qui me permet de dire que cette proposition, cette statue est belle, est vraie? Bon, je pars toujours de la même conception, presque comme précédent, de dire que toute proposition est vraie selon l'adéquation de l'intelligence avec la réalité. On est parti de là, ce que saint Thomas dit, en voyant toujours que cette adéquation est différente selon les différents cas. Autrement dit, la mesure est différente. Or, pour pouvoir dire que cette statue est belle, quel est le critère de vérité pour la beauté? Y a-t-il un critère de vérité? Ou est-ce que la beauté est quelque chose de tellement subjectif que vous direz qu'il n'y a pas de beauté? Cette statue est belle pour... Elle est belle pour le jury très académique. Est-ce qu'on dira? C'est parfait pour ce concours. Elle est belle. Elle sera selon le goût d'eux. Mais pour moi, ou pas du tout. On dira couramment, pour ce concours, pour ce jury, c'est tout à fait ce qu'il fallait. Comme c'est très académique, c'est parfait. Tandis que pour moi, je suis libre. Non, je ne trouve pas du tout que c'est beau. Et ce qu'on dira, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Donc, la mesure, quand je mets pour moi, c'est moi qui me met mesure de vérité, mesure de beauté. Ou le jury, mesure de beauté. C'est très extrinsèque. Donc je dois toujours préciser, cette statue est belle pour telle personne. Ou bien, puis-je dire, cette statue est belle pour l'artiste. qui l'a faite? Est-ce que c'est l'idéal de l'artiste qui est mesure de cette statue? Et si cette statue est adéquate à l'idéal de l'artiste, elle est belle. Ah. L'idéal de l'artiste, c'est subjectif et c'est objectif aussi. Il a un projet. Cette statue réalise parfaitement ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais voulu faire. C'est très peu d'artistes qui disent ça, vous savez rien. Cette statue réalise parfaitement ce que je portais en moi. Et donc, je peux dire qu'elle est belle. Conformité de cette œuvre, conformité de cette œuvre, il s'agit d'une œuvre, avec son modèle. Et le modèle de cette œuvre, c'est bien l'idéal. Et donc, si cette œuvre est conforme à son modèle, elle est vraie. Donc, quand je dis qu'elle est belle, c'est vrai, elle est conforme à son modèle. Cette proposition est vraie. Qu'est-ce qu'il y a ?
Il n'y a que pour l'artiste que c'est vrai.
Après tout, il n'y a pas que l'artiste qui comprend son œuvre.
Oui, mais il n'y a que lui qui
sait ce qu'il... Il n'y a que lui qui pourra dire cette œuvre est conforme à ce que je veux. À ce que je veux, elle est vraie. Et elle est belle. Cette affirmation, elle est belle, montre bien qu'elle est conforme à l'idéal que je porte en moi. Oui.
Est-ce que l'idée doit être tout à fait en tout détail déjà établie, ou est-ce qu'il se peut qu'il y ait une idée confuse qui se détermine?
Très bien, qui se détermine petit à petit. Oh, l'idée se fait progressivement. Hein. Tout en la faisant, l'idée se modifie. Au terme, il dit oui, c'est bien ça. Valdevonum. C'est tout à fait bon. C'est bien. Donc, quand je dis cette statue est vraie, je veux dire qu'elle est conforme à son idée, à l'idée de l'artiste. Vous êtes d'accord avec ça? Oui.
Je ne vois pas comment on peut identifier le beau et le parfait. Parce que pour le parfait, il y a un
comme un Ah oui, mais attention, c'est une façon de parler. Oui, elle n'est jamais absolument parfaite. Comme si je dis, elle est vraie. Cette œuvre est vraie. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est toujours la correction? Je sens que cette œuvre est vraie. Elle a une vérité en elle-même, indépendamment de ce que regarde l'artiste. Oui. À son plan, mais pour une statue aussi. L'artiste fera, il porte en lui quelque chose, il réalise en fonction de ça. Et donc l'idéal qu'il porte est bien mesure de l'œuvre. Si elle est mesure de l'œuvre, cette statue est vraie dans la mesure où elle est. Ah, alors, est-ce que, voyez, est-ce que je mets beau ou est-ce que je mets vrai? Je regarde à ce moment-là la vérité de cette statue. Elle est conforme au modèle de celui qui l'a faite. Donc elle est vraie. Oui.
Est-ce que tu es plus proche de la sincérité, ça?
Ah non. Oui, mais sincérité, c'est psychologique. Je dirais pas la statue sincère. Non, mais... Oui. Je regarde la statue en elle-même. Je dis, elle est vraie.
C'est l'artiste qui dit,
qu'il dit. Il porte en lui la mesure de sa statue. Dans un jugement artistique, qu'est-ce qu'il juge en premier lieu? C'est l'artiste qui dira, elle est vraie. Cette œuvre, elle est vraie. Elle est conforme à ce que j'ai voulu faire. Alors, voyez, nous touchons là tout de suite quelque chose de très particulier. Nous regardons la vérité de l'œuvre. Hein? Et puis il y a la vérité de la proposition. Cette œuvre est vraie quand elle est conforme à sa mesure. Quand je dis cette œuvre est belle, c'est déjà autre chose. C'est plus la vérité, c'est la beauté. Oui. La beauté a-t-elle une mesure?
Dire que est vrai, c'est un être de raison. Mais je veux dire que c'est belle à un être de raison que nous devons.
Elle est vraie, c'est un être de raison. Attention. Nous ne considérons pas la vérité comme un être de raison. Conformité de l'intelligence à la réalité. Ce n'est pas un être de raison. Oui, vous voyez, quand je regarde dans la philosophie spéculative, je regarde la vérité d'un jugement. Et je dis ce jugement est vrai quand il est conforme à la réalité affirmée. Et la mesure de ce jugement, c'est la réalité. Réalité existante. Jugement d'existence. Ceci est. Jugement vrai qui est conforme à la réalité existante. Quand je suis dans la philosophie pratique, alors est-ce que je ne dois pas distinguer certains plans différents? Je dois distinguer d'abord le point de vue de l'œuvre. Je peux parler de la vérité d'une œuvre. Et cette œuvre est vraie quand elle est adéquate à son modèle. Le modèle de l'œuvre, c'est l'idée qui mesure. L'œuvre est conforme à sa mesure. Elle est vraie. Bon, je peux regarder aussi, non seulement l'œuvre, mais le jugement du critique. Il dit, cette œuvre n'est pas belle. La beauté n'est pas la vérité. Cette œuvre est vraie. Cette œuvre n'est pas belle. Jugement critique. Quel sera son critère? Quand il dira cette œuvre n'est pas belle. Est-ce que la beauté a une mesure objective?
C'est un ensemble qui voit,
un ensemble qui juge. Oui, c'est tout un ensemble. Précisez un peu.
La mesure, c'est pas dans la personne, mais c'est dans la communauté qui voit de la même manière. Si on juge tout le monde que cet homme est bon.
Alors, c'est donc en raison du suffrage universel. C'est donc en raison du suffrage universel que cette œuvre est belle. Alors je dirais, cette œuvre est admise universellement dans cette communauté. Elle est belle universellement. Et on la considère comme belle. Est-ce que c'est ça qui la fait belle? Non.
Est-ce qu'il peut y avoir un mauvais goût universel?
Qu'est-ce qu'il y a? Il peut y avoir un mauvais goût universel. Ça arrive. Ça arrive. Dans les lendemains de votation, il y a des jugements. Il est arrivé un jugement mauvais universel. Il y a une folie collective. C'est pas encore, mais folie collective. Les gens sont un peu malades. On leur a servi un peu d'alcool le soir. Ils ont tous voté comme ça. Parce qu'il y a le vote de l'alcoolique et du non-alcoolique. Ils ne votent pas de la même façon. Après avoir pris. Oui. Oui.
Est-ce que la vérité n'élargit pas la conception de la beauté? Je m'imagine qu'on peut dessiner quelque chose qui n'est pas beau, mais qui correspond à une idée qu'on peut exprimer.
Donc je pourrais dire que quelque chose est vrai, il correspond exactement à ce qu'a voulu l'artiste, mais ça peut très bien ne pas être beau. Le critère de beauté n'est pas le critère de vérité. Or, nous cherchons ici, non pas la beauté, mais nous cherchons le critère de vérité. Nous sommes partis de là. Qu'est-ce qu'est le critère? Quel est le critère de vérité de la connaissance spéculative? Quel est le critère de vérité du jugement dans la philosophie pratique? C'est le critère de vérité que je cherche, pas le critère de beauté. Ah oui, mais je viens de dire, le critère de vérité, c'est ça que nous cherchons. Le critère de vérité, est-ce que c'est la culture? Non, c'est l'idéal de l'artiste, voulez-vous. L'homme artiste est mesure de son œuvre. Quoi? Je ne cherche pas la beauté, j'ai dit que ce n'était pas ce critère-là que je cherchais. Oui. Autre chose est de dire cette statue est belle, autre chose est de dire qu'elle est vraie. Or, qu'est-ce que nous cherchons? Des critères de vérité, pas les critères de beauté. Je vous ai mis exprès sur la piste de la beauté pour que vous fassiez un déraillement. Vous voyez? Et maintenant, je vous remets sur les rails. C'est le critère de vérité qu'on cherche, pas le critère de beauté. Et on arrive à confondre très facilement les deux. Alors vous me direz, oui mais cette statue est vraie, c'est les conformes. Oui mais l'artiste voulait créer quelque chose de beau. Ah, vous voyez, l'artiste voulait créer quelque chose de beau. Donc son œuvre correspond à l'intention profonde de l'artiste, si elle est belle. Ah, puisque l'intention de l'artiste, c'est de créer une œuvre belle. S'il veut créer une œuvre utile, je veux réaliser le Concorde. Bon, est-ce que le Concorde est utile? Si je vois que non, c'est démesuré. On a vu 30 ans d'avance. C'est de mesurer. Alors on dit, bon, donc, ça ne correspond pas à la réalité utile. C'est peut-être très beau. C'est un oiseau de proie. C'est curieux, c'est étonnant. Il y a quelque chose de particulier. Quand on l'entend, on se retourne. Ça fait du bruit. Donc, c'est tout à fait ce qu'on cherchait. Ça fasse du bruit. Alors, vous voyez, à ce moment-là, c'est bien conforme à l'utilité, à l'intention de l'artiste. Donc, c'est vrai. Une œuvre d'art, on cherche quelque chose qui plaît. Quoi de visu, platchette. Donc, un jugement qui plaît et qui est beau. Donc, vous voyez, je dois distinguer. Dans le jugement artistique, je dois distinguer plusieurs choses. Je ne peux pas porter un jugement tout court. C'est complexe. le chemin artistique, si je le regarde en tant que je regarde l'œuvre et que je parle de la vérité de l'œuvre, conforme à sa mesure. Si je regarde l'intention de l'artiste qui veut réaliser une œuvre belle, le critère alors de la beauté, c'est conforme entièrement à l'intention. Est-ce que cette œuvre est belle? Ça, c'est autre chose. Oui. S'il veut réaliser une œuvre belle, cette œuvre sera vraie, mais ne sera pas nécessairement belle. Alors, y a-t-il un critère de beauté?
Oui. Il y a le sens de beau qui est dans l'autre.
Qui est?
Comme dans l'artiste propos, il a l'intention de créer le beau, alors dans l'autre, il faut y avoir la même intention de voir le beau, de distinguer le beau. Alors, ce sens de beau qui est dans l'autre,
oui. Oui, mais là c'est purement subjectif.
Alors, mais un subjectif collectif, c'est différent.
je ne crois pas qu'on puisse un subjectif collectif qui permet de décréter que c'est beau. C'est très difficile, vous voyez, au fond, c'est toute la question de savoir qu'est-ce qu'on représente, ce qu'on disait au XVIIe siècle, des canons de beauté. Ça, c'est le propre au XVIIe siècle. Je ne crois pas qu'il y ait des canons de beauté, moi. Je ne crois pas. Je crois qu'on éduque le sens du beau. Et cependant, il y a quelque chose d'objectif dans le beau. C'est pas purement subjectif. Mais l'objectivité du beau, c'est très délicat à préciser. Oui, donc, au fond, on est en présence, dans le jugement artistique. Je distinguerai là, tout de suite, hein, tout de suite. Et je crois qu'il faut le faire, si on cherche les critères de vérité. Oui.
Est-ce que tout ça, en fait, c'est pas lié à la qualité essentielle?
Oui, mais la qualité. Je suis dans une philosophie pratique du jugement artistique. Quelle est la qualité de l'artiste?
Conformité à ça. Je pense par exemple au statut de Rodin, ou je pense par exemple au Léon de Belfort, autant de
canons de beauté.
Oui, par exemple, l'artiste qui a fait le Léon de Belfort s'est suicidé parce qu'il a trouvé que ça ne correspondait pas à ça.
Oui, mais c'était malheureux. C'était malheureux. Oui.
Il y a un point de vue de qualité aussi bien dans l'exécution, dans le matériau, dans la forme, dans ce que ça va suggérer.
Oui, mais c'est autre chose, c'est pas la qualité qui est la beauté.
Ça en fait partie de façon très.
Ah, ça fait partie. Une œuvre qui n'est pas qualitative n'est jamais belle.
La bijouterie, par exemple.
La qualité de la pierre précieuse, c'est pour ça qu'elle est précieuse. toute pierre précieuse est qualitative. Et toute qualité est précieuse. Quoi ?
Le métal, par exemple.
Oui. Il y a un métal qui est brut. Et il y a un métal précieux. Et quelquefois, je peux faire une œuvre belle avec un métal brut. Ah, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Quand je veux montrer une œuvre forte, je prends un métal brut. Tiens, c'est pour ça que j'ai dit c'est très dangereux.
Oui.
Oui, dans du bois. Oui, une pierre de calcaire. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, mais vous voyez, la qualité du côté de la matière. Et donc, c'est pas ça qui fait la beauté artistique. Ah oui, ça, c'est évident. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas ça qui fait puisqu'on cherche la vérité et la mesure. Ce n'est pas la matière de l'œuvre qui mesure l'œuvre. Élément essentiel et fondamental, d'accord, mais pas la mesure. Ça qui est très difficile. Quand il s'agit d'un jugement artistique, et de voir exactement, quand il s'agit des connaissances spéculatives, ça va très bien. Alors, est-ce que je ne dois pas ici tout de suite dire attention, je suis devant une philosophie pratique. La philosophie pratique, c'est une connaissance. Cette connaissance artistique, donc qui se donne dans un jugement artistique, cette connaissance artistique, elle porte sur une œuvre d'art. C'est sûr. Et je dis, cette œuvre, je ne dirais pas Popel, cette œuvre est une œuvre artistique. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. Cette œuvre est une œuvre artistique. Pourquoi est-elle une œuvre artistique? Et comment puis-je dire que cette œuvre est une œuvre artistique? Quel est le critère? Je ne parle plus de beauté. Je dis une œuvre artistique. Vous voyez? Qui sera acceptée dans tel milieu et refusée dans tel autre milieu. Mais c'est une œuvre. C'est vraiment une œuvre artistique. Et au fond, le jugement, la connaissance artistique, la philosophie de l'art porte là-dessus. Cette œuvre est une œuvre artistique. Cette œuvre artistique parce qu'elle est mesurée par un artiste, par l'idéa. Je reviens toujours à l'idéa, qui est mesure de cette œuvre artistique. L'idéa est le fruit d'une inspiration. S'il n'y a pas d'inspiration, il n'y aura pas d'œuvre d'art. Donc, voyez, quand il s'agit d'un jugement artistique, la mesure n'est plus la réalité existante. Et la mesure est l'idéa de l'inspiration de l'artiste. Oui.
Est-ce qu'une œuvre est nécessairement
autre chose. Je suis parti exprès sur un autre point de vue.
Parce que si vous formez l'idée d'artiste, c'est
pas vrai. Attention, ce que je cherche, n'oubliez pas ce que nous cherchons. Ce que je cherche, c'est les critères divers de vérité par rapport à nos jugements philosophiques. Bon. Il y a une philosophie de l'art. Quel est le critère de vérité d'une philosophie de l'art? Dans un jugement. Quand on essaie de faire, d'analyser au niveau artistique, je cherche quel est mon critère de vérité. Comme en philosophie spéculative, je cherche quel est le critère de vérité. C'est parti, nous sommes partis de là. Oui. Quel est, quand il s'agit d'une philosophie, d'un jugement artistique, quel est le critère de vérité? Je dis, le critère de vérité, c'est l'idéa de l'artiste. S'il n'y a pas d'idéa, il n'y aura pas d'œuvre d'art. Donc pas de jugement. Pour qu'il y ait œuvre d'art, il faut qu'il y ait une idéa. Et l'idéa naît toujours dans une inspiration. Voilà. Et ça, c'est la cause exemplaire. Donc, c'est la mesure de l'œuvre d'art. Ensuite, je me poserai la question, cette œuvre d'art est-elle admise, votre critère? Est-elle telle? Cette œuvre d'art pourra-t-elle rester à travers le temps comme un chef-d'œuvre? Le critère d'un chef-d'œuvre. Oui. Et alors là, le point de vue de la matière va jouer. Tout à fait d'accord. Pour que ça passe. On dira, cette œuvre d'art, elle est magnifique. Ah, c'est bien dommage que ce soit fait dans une matière qui vraiment n'est pas digne de cette œuvre d'art. Oui. Et à cause de ça, ça ne passera pas. Parce que toute œuvre d'art implique une qualité. Alors je suis tout à fait d'accord. Puisque c'est la mise en lumière d'une qualité, l'œuvre d'art. C'est la mise en lumière des qualités sensibles. C'est ça la mise en lumière. Et cette mise en lumière ne peut se faire que grâce à une matière qui elle-même a la dignité de cette œuvre d'art. Oui. Donc, le critère de vérité dans une philosophie pratique, et quand il s'agit d'une connaissance artistique, le critère de vérité ne sera plus la réalité existante. Ce sera le point de vue de l'idéa. Si c'est conforme non à l'idéa. J'ai donc là une vérité d'un type tout à fait autre que la vérité dans la philosophie spéculative. Et ça m'intéresse parce que je vois que là, l'homme est mesure de l'œuvre d'art. Vous savez bien, quand les sophistes disent que l'homme est mesure de la vérité, il y a un petit quelque chose de vrai. C'est vrai pour une œuvre d'art. Si les réalités existantes sont considérées comme des œuvres d'art, l'homme est mesure de ses vérités. Et l'homme serait mesure de cette philosophie. Dans une philosophie artistique, le point de vue de l'homme artiste, de l'homme inspiré, de l'homme qui porte en lui